Et à toutes, bienvenue sur Radio Mayori Campus, la radio du savoir. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Patrick Moreau. Patrick Moreau, bonjour.
Bonjour.
Donc, vous êtes comédien, metteur en scène et professeur au Conservatoire de Cayenne, si je ne dis pas de bêtises. Vous avez été formé en Belgique au Conservatoire Royal de Mons. Et vous avez ici créé à Cayenne votre compagnie en 2006, ça s'appelle L'Homme aux Semelles de Vent. Aujourd'hui, il y a le spectacle L'Invitation au Voyage que vous avez mis en scène avec Johanna Belloni et qui a fait sa deuxième représentation hier à L'Encre, l'auditorium de L'Encre. Donc, on va un peu évoquer votre parcours dans le monde du spectacle vivant, la culture un peu aussi en Guyane, votre nouveau spectacle. Mais avant tout ça, je voulais un peu contextualiser que les auditeurs, ils sachent un peu qu'est-ce que ça veut dire être metteur en scène aujourd'hui, être metteur en scène pour vous, en tout cas, qu'est-ce que ça veut dire, Patrick Moreau ?
D'abord, une toute petite précision, je ne suis pas professeur au conservatoire de Cayenne.
D'accord.
Oui, c'est Hermina Duro qui est professeure au conservatoire de Cayenne. D'accord. Je ne suis professeur nulle part d'ailleurs. J'ai très, très longtemps intervenu dans les lycées, à l'université, mais cette année c'est fini. D'accord. Donc voilà, ça c'est une précision importante.
Oui, quand même.
Bien entendu. Bon, être metteur en scène aujourd'hui, c'est tenter, parce que naturellement il y a 2 ans de la crise sanitaire qui ont beaucoup chamboulé les choses. C'est. Bon, il y a plusieurs façons d'être metteur en scène. Soit on a envie de créer une œuvre, soit qu'on a lu, ou bien qui est en nous, qu'on part à partir de rien, et on se dit, voilà, je vais la mettre en scène. Donc je vais prendre des gens, souvent, ou soi-même, voilà. On va mettre ces gens, on va leur faire travailler ce texte, par exemple, sur un plateau de théâtre, donc qui est finalement une surface, hein, une simple surface, hein, noire si possible, hein, mais si c'est pas noir, c'est pas grave. Voilà, on fait ça, et puis pendant X temps, le plus longtemps possible, hein, bien sûr, on les fait travailler en les faisant, en les mouvant, et surtout parallèlement en les dirigeant, c'est la direction de l'acteur, donc il y a. Mettre en scène, c'est en même temps placer les gens, bien sûr, et aussi les diriger pour que ce soit le plus vrai possible, vrai dans, au sens de la vérité. Voilà, c'est un peu ça. Hein.
Qui réussissent aussi peut-être à mettre en valeur un peu le texte qui est...
Bien entendu, oui, ça, c'est la première chose qu'il faut essayer de faire, c'est surtout mettre en valeur. J'allais le dire d'ailleurs que tout est au service du texte. Toute cette machinerie qui se met en place... Et ça, on parle du théâtre, mais dans le cinéma, c'est beaucoup plus visible encore, parce que là, ce sont tous des corps de métiers différents qui collaborent ensemble pour faire une entreprise commune et un produit commun. Mais au théâtre, c'est la même chose, évidemment. C'est à moindre échelle, bien sûr. Mais c'est ça, c'est toujours au service de l'œuvre, bien sûr.
Donc, ça fait quand même des années que vous êtes dans le monde du spectacle vivant. Et moi, je voulais un peu vous demander comment est-ce que vous avez évolué dans ce monde-là, parce que vous avez eu, j'ai l'impression, plusieurs casquettes. Et est-ce que vous avez toujours voulu être metteur en scène? Est-ce que c'est venu petit à petit? En fait, c'était quoi votre formation à l'origine et qu'est-ce que vous en êtes venu à devenir aujourd'hui?
D'accord. Je vois que vous avez bien lu mon CV. Oui, c'est pas mal. Hein. Et non, à l'origine, moi j'ai commencé à 18 ans, hein, il y a de ça quelques années, et je ne voulais faire que ça. Je voulais. D'ailleurs, les gens qui me connaissent bien me disent toujours tu es comédien, tu ne peux faire que ça. Ça, c'est clair, encore maintenant, ça, c'est une évidence. Mais petit à petit. Enfin, ce qui m'a fait découvrir vraiment le plaisir de la mise en scène, c'est que très vite, donc tout ça se passe en Belgique, je suis monté très très vite dans les échelons, dans les échelons, c'est une façon de parler, j'ai pu travailler de plus en plus avec des gens qui m'intéressaient, voilà. Et grâce à ça, je suis devenu une espèce de chargé de cours, d'intervenant au conservatoire même où j'avais fait mes études. Et là, c'est la première fois que j'ai pris conscience du plaisir qu'on a à diriger les autres, bien sûr. Avec le bagage qu'on a eu en le faisant soi-même, le comédien. Je parle d'être comédien, hein, voilà. Et donc ça, c'est très intéressant. Et puis, petit à petit, on en vient à la mise en scène. Ma dernière représentation théâtrale comme comédien, c'est en 2014, ici, en Guyane. Après, j'ai fait beaucoup de cinéma, mais théâtre. 2014, c'était pour un oui, pour un non de Nathalie Sarraute, avec Grégory Alexander en binôme. Donc, on était deux comédiens, et mis en scène par Stéphane Godefroy, un metteur en scène de Poitiers, qui était venu ici faire ça. Et puis je me suis dit, non, c'est dur, parce qu'être comédien, c'est une intensité nerveuse, terrible, c'est une pression extraordinaire. Et puis les années faisant, je me suis dit, non, je ne peux plus faire ça pour le moment. Peut-être un jour, hein, je le referai, hein, mais pour le moment. Voilà, donc c'est ça. Du comédien, je suis passé à la formation tout en continuant à être comédien, et puis petit à petit tout ça m'a amené à la mise en scène, et voilà, c'est comme ça, c'est le hasard.
C'est super. Moi, je me demandais un peu, c'est quoi votre attachement avec la Guyane, parce que ce que j'ai compris, ça fait quand même une petite vingtaine d'années que vous êtes en Guyane, donc vous avez quand même été formé en Belgique, et aujourd'hui vous êtes en Guyane, donc on se demandait un peu qu'est-ce qui vous a amené à venir faire du théâtre ici?
C'est une très bonne question, je vois vraiment vieux mon CV. Non, ça fait 17 ans que je suis là. En fait, j'ai arrêté de faire du théâtre professionnel, je dirais au début des années 90, pour plusieurs raisons. J'avais fait ce que je devais faire à ce moment-là, et je ne supportais plus cette boîte noire. Parce que le théâtre, c'est une boîte noire, hein, vraiment une boîte noire. Et quand on le fait professionnellement tout le temps, comme je l'ai fait, au bout d'un moment, on a envie de voir le soleil, on a envie de voir du vent. Voilà. Et moi, je suis un homme d'extérieur, donc je ne pouvais plus. Alors, on est parti en Afrique, ma famille, on est parti là. Là, j'ai donné cours au lycée français, donc j'ai toujours gardé un pied quand même. Hein. J'ai donné cours au lycée français de Bujumbura, à l'école belge de Bujumbura. Puis on est revenu en Belgique parce qu'entre-temps, je vous parle, ça c'est dans les années 92-95, c'est le génocide de Rwanda, c'est la guerre civile. Là-bas, donc en 95, on a dû revenir, c'était plus possible, c'était plus tenable. Là-bas, certainement pas de faire du théâtre, bien sûr, ils avaient d'autres choses à
C'était pas
penser que venir ouais, dans les
la
salles pour
priorité.
applaudir du théâtre. Et alors, voilà, et puis je suis rentré en Belgique, et là j'ai formé déjà une association pour donner des cours. Là, vous voyez, ça m'a toujours suivi comme ça. Et puis je suis arrivé, on est parti dans le sud, là j'ai plus du tout fait de théâtre parce qu'entre-temps je suis devenu plombier, voyez-vous.
Ah, d'accord.
Oui, j'ai fait mon CAP de plomberie, mais très très tardivement, à 40 ans pratiquement, parce que j'aime l'eau, j'aime profondément l'eau. Et la plomberie, pour moi, c'est une manière de maîtriser l'eau. Donc, j'en fais toujours d'ailleurs la plomberie. Là, ce matin, après l'interview, je vais faire la plomberie. Là, j'ai mis dans la voiture. Non, donc je suis arrivé ici avec ma femme comme plombier. Voilà, j'ai fait notamment, vous n'étiez pas là, avant les urgences de l'hôpital de Cayenne n'étaient pas à l'endroit où elles sont maintenant. Donc je me suis occupé, là, avec la boîte où je travaillais, de faire tous les flux médicaux. Voilà, donc j'ai fait ça. Mais au bout de 6 mois, je me suis dit, non, j'en peux plus, c'est fini, je peux pas faire que ça. Je peux pas faire que manuel et en même temps que ça, je peux pas. Donc je me suis dit, là, j'avais commencé à redonner un petit pied dans l'étrier en faisant des aides à des professeurs qui donnaient qui faisaient comment on appelle ça, des troupes amateurs, hein, des troupes d'amateurs. Et puis, je l'ai fait et ça m'a donné goût. Un des professeurs a écrit un rôle pour moi, donc voilà. Et puis j'ai commencé, je me suis dit, tiens, pourquoi je ne le referais pas? Parce que j'avais quand même derrière moi toute la rigueur du professionnalisme. Hein, voilà. Et je suis resté jusqu'à ce moment-là, même si je ne le pratiquais plus, je suis resté quand même un professionnel du spectacle.
Bien
Parce
sûr.
que, bien sûr,
Ça se perd
j'étais
pas
à
tant que ça,
l'école.
quand même.
À 18 ans, j'étais à l'école de théâtre. Ça fait quand même des années maintenant que je fais le théâtre. 45 ans, peut-être, ouais, 45 ans de théâtre. Et alors, donc j'avais ma compagnie ici, parce que c'est un outil administratif, une compagnie, ce n'est que ça. Hein, mais on est obligé, pour avoir de la subvention, pour avoir des aides, pour faire les payes, enfin, on est obligé d'avoir une compagnie. C'est pour ça que j'ai fait une compagnie. Et puis, ben voilà, et puis j'ai commencé, bon, comme on était, ça je vous parle, en 2006, on était, le théâtre démarrait, il n'y avait pas encore les deux scènes conventionnées de Guyane, hein, donc Saint-Laurent-des-Maronis, Macouria. Donc ici, c'était niveau zéro, hein, du théâtre.
Ah, oui.
Il y avait quelques troupes amateurs qui avaient envie de se professionnaliser. Et grâce à un conseiller du spectacle vivant, Pierre Chambert, qui était un vieux routier, qui venait de l'Île-de-France, qui a connu... tout le monde, hein, tout le monde, tout théâtre en France. Hein.
Okay.
Ben, il a dit pourquoi ne pas créer ici des scènes conventionnées. Et la troupe la plus professionnalisée, c'était la compagnie théâtrale guyanaise à Macouria, Mariani Félicité, qui est devenue, donc Macouria est devenue, avec une ancienne tripartite entre l'État, la compagnie et la mairie, qui est devenue la première scène conventionnée de Guyane en 2007. Okay. Donc j'ai assisté à tout ça, j'étais dedans, puis j'ai continué avec eux quelques années, j'ai fait beaucoup joué, et puis j'ai continué jusque maintenant.
Quoi. Ah, oui.
Voilà mon petit parcours.
Donc quelque part, il fallait peut-être une pause pour pouvoir se rendre compte que quand même vous aviez besoin de revenir au théâtre, de revenir au spectacle vivant. C'est intéressant de voir toute cette évolution qu'il y a eu dans le théâtre, en Guyane, comment ça a évolué un peu c'est relativement récent quand même, toutes ces années-là. Et moi, j'ai beaucoup entendu qu'avec le Covid, ça avait du mal à repartir, qu'il y avait beaucoup d'événements artistiques qui avaient du mal à repartir. Je ne sais pas, vous qui êtes dans le monde de la culture, comment est-ce que vous voyez ces années-là, un peu post-Covid ? Enfin, on y est encore dedans, plus ou moins, mais... Qu'est-ce que ça a fait au monde du théâtre, ce Covid ?
J'ai déjeuné il y a deux jours avec Céline Delaval, la conseillère au spectacle vivant ici en Guyane, qui m'a dit qu'il n'y a jamais eu autant de demandes d'aide à la création que cette année-ci.
D'accord.
Parce que d'habitude, on stagne à 4, 5, on reste dans le petit. Mm-hmm. Dit qu'ici, il y en a plus de 10, je crois.
Ah oui, d'accord.
Plus de 10. Donc... les années du Covid ont donné... Pendant ces années-là, c'était très difficile, ça c'est clair. Enfin, ceci dit, pour moi, pas du tout, parce que j'en ai profité pour remettre des dossiers. J'ai beaucoup travaillé ces années-là, finalement, puisque je ne sais pas pourquoi, mais ça a très bien marché. Et puis, là, je vois qu'au contraire, maintenant, il y a un renouveau, un engouement. Ça reprend bien, reprend très, très bien.
Donc là, il y a plusieurs projets qui sont un peu dans les boîtes, enfin, dans les cartons, et qui devraient pas tarder à arriver.
Ah, bien sûr, ça va faire le temps que ça passe, la commission est passée. L'argent, c'est soit avant la fin de l'année, normalement le cahier des charges c'est avant la fin de l'année, ou par dérogation, l'année suivante, on peut avoir une dérogation sans pouvoir remettre à ce moment-là une demande de la création l'année prochaine. Et donc, ça devrait arriver donc fin de cette année, donc il y aura pas du théâtre seulement, il y a de la danse, beaucoup de musique, parce que le spectacle vivant c'est la danse, la musique, le théâtre. Ça, hein, mais il n'y a pas que le théâtre, et donc là, ça, oui, j'ai été complètement surpris qu'elle me dise ça. C'est incroyable, hein,
c'est quand même une bonne nouvelle.
C'est clair,
oui, c'est sûr, c'est vraiment une très bonne nouvelle. En fait, moi, je voulais aussi un peu évoquer le nouveau spectacle que vous avez mis en scène en collaboration. J'ai vu que tout au long de votre carrière, vous avez souvent fait des travaux de mise en scène en collaboration. C'est quelque chose qui vous tient à cœur, la collaboration dans la mise en scène. C'est vrai que je pense que quand on est à deux, finalement, peut-être qu'on a plus d'idées, qu'on arrive plus à se compléter. Il y en a un qui rajoute quelque chose et l'autre. Et finalement, on se dit, les deux cerveaux, ça a réussi à faire quelque chose d'encore plus beau qu'avant, je sais pas.
Oui, j'ai commencé les collaborations en 2012, exactement, un peu avant, mais pas directement en pure collaboration, en pure commise en scène. C'est surtout en 2012 où j'ai mis en scène Damas Fragment, ici pour l'anniversaire de la naissance de Léon Gontran Damas. Et là, c'est ma première véritable co-mise en scène, totale. Bon, c'est plusieurs raisons à ça. Quand on est une toute petite compagnie comme la mienne, où je suis tout seul, j'ai pas de chargé de diffusion, j'ai pas de chargé de production, j'ai personne, je suis tout seul. J'ai mon président qui est en Belgique, c'est mon beau-frère. Et bon, voilà, donc c'est tout petit. Je fais tout moi-même, je délègue mes fiches de paye quand j'en ai besoin à une entreprise, c'est tout, mais ça s'arrête là. J'ai d'abord fait une collaboration de mise en scène parce que j'ai toute l'administration à m'occuper pendant la création.
Et ça, on ne se rend pas compte, mais ça fait beaucoup, en fait.
Ouh, c'est énorme, c'est parce qu'il faut diffuser, ça veut dire qu'il faut chaque fois relancer les gens, téléphoner. Et ça, c'est toujours au détriment de la création.
Ouais.
Parce que les comédiens, ils sont là, on les a bloqués. Mmh. Voilà. Bon, maintenant, ça se fait plus en résidence. Hein, mais en 2012 encore, ça se faisait sur un court laps de temps, 6 semaines en général. Et pendant ces 6 semaines, avec les comédiens, on créait ce spectacle. Bien sûr, en amont, il y a tout le travail que je faisais pour préparer tout ça, mais... Mais pendant, non, alors je me suis dit non, au moins je vais déléguer la mise en scène à quelqu'un d'autre en qui j'ai confiance. Voilà, c'est d'abord la première raison, ça. Hein. Mm-hmm. Et puis je me suis dit que ça enlève pas mal de pression, parce que le problème de la mise en scène, vous voyez, les metteurs en scène, c'est que le comédien, il se décharge. Voilà. Le comédien se décharge. Le metteur en scène et le directeur d'acteur en même temps, s'il est directeur d'acteur en même temps, il prend. Il donne, il prend tout le temps. Il prend tout le temps sans jamais décharger. Et au bout d'un moment, la pression est insupportable. Parce que toute cette charge émotionnelle qu'il y a, parce que c'est diriger des comédiens, c'est terrible. Hein, ça touche à l'humain, vous voyez. On ne vend pas des petits pois ni des cravates. Il faut aller chercher. Moi, je fais un travail de fond toujours. Hein, donc. Moi, j'estime que la forme découle du fond. Donc, avant la forme, je vais toujours essayer d'aller chercher le fond, au fond, au fond, au fond de l'acteur. Mais pour ça, c'est difficile. Il faut beaucoup, beaucoup donner de soi-même, beaucoup donner, beaucoup écouter, beaucoup recevoir des choses comme ça. Et voilà. Et ça, la comise en scène permet d'un peu souffler, quoi. Souffler. Notamment avec Johanna Belloni ici, c'était merveilleux parce que quand elle n'en pouvait plus. Elle me disait, à toi, j'en peux plus.
C'est-à-dire, ah, vous êtes deux, vous pouvez donner le relais, en fait.
Ah ouais, c'est clair. C'est... Et puis, quand on bloque sur quelque chose, parce que parfois, il y a une scène qui bloque, ça ne part pas, ça ne mord pas, il y a rien, la sauce ne prend pas, ben on est deux. Donc, on peut voir pourquoi il y a plus de tête que dans une, c'est clair, évidemment. Ouais. Mais ceci dit, c'est pas facile de faire une mise en scène non plus, hein, parce qu'il faut qu'on soit exactement sur la même longueur d'onde. Jusqu'ici, j'ai eu de la chance, bon, il faut le dire, de tomber sur des gens. Parce que Johanna Belloni, par exemple, je n'avais jamais travaillé avec Johanna.
D'accord, ouais.
Je la connaissais d'Avignon, c'est tout. Et je me suis dit, si on en vient au spectacle, je me suis dit que. Comme Yvette Le Goff et Sébastien Davy avaient envie d'un certain exotisme de cette invitation au voyage, je me suis dit que je connais Johanna, elle est spécialiste du masque Topeng, qui veut dire masque. D'accord. Elle est spécialisée dans la danse et le théâtre balinais. Mm-hmm. Elle a des maîtres à Bali, etc. Donc je me suis dit, quoi de plus exotique que cette danse balinaise? C'est extraordinaire, ces masques. D'ailleurs, on n'a pas exploité ça complètement parce que c'est un travail de plusieurs années pour arriver à faire vraiment la danse balinaise comme elle le fait elle évidemment. Mais au peu de temps qu'on avait, on ne pouvait pas amener les comédiens à vraiment faire la danse balinaise, c'était impossible. Donc on a fait une espèce de compromis avec ces masques qui sont un peu d'inspiration. Vous avez vu le spectacle, donc vous avez vu un peu, ils sont un peu d'inspiration en même temps. Non, c'est Pat Kahn d'ailleurs, le plasticien qui a créé la structure, qui a complètement inventé la structure à partir de rien du tout, en disant voilà, à partir dans cette malle, il faut tenir un machin qui va se monter là sur scène le plus vite possible et qui ait du sens. Voilà. Mmh. Et c'est lui qui a créé tous les masques, parce que c'est un fabuleux plasticien.
Hein,
il a fait les col boules. Non, paradoxalement, ici, on croit qu'il n'y a personne, mais en fait, ici, il y a des gens qui ont beaucoup de talent ici.
Et qui sont très bien formés.
Certainement. Ah oui, ça, c'est très impressionnant ici. Le tout, c'est de les découvrir, c'est ça. Éric Bonheur, le musicien, bon, lui est beaucoup plus connu, bien sûr, il est médiatisé, mais sa musique, vous avez entendu hier, c'est une propre création à partir de nos envies.
Ah oui.
Il lui dit là, il nous faut ça comme ambiance. On lui faisait écouter une ou deux chansons, une musique, n'importe quoi. Et avec ça, il pondait des choses, il revenait, etc. C'est un travail de fou qu'il a fait. Parce que c'est une vraie création.
C'est vrai qu'on se demandait un peu d'où est-ce qu'il venait, ces masques. C'était quoi l'inspiration des masques Ouais, bah c'est vrai, comme les danses, en fait, je ne m'étais pas rendu compte que c'était des danses qui venaient donc de Bali, et que ça avait cette origine-là. Donc, ouais, pour les masques qui étaient d'ailleurs très très beaux et très très bien mis en valeur, surtout à la fin du
Bien
spectacle,
sûr.
c'est quoi un peu leur histoire, s'il y en a
Eh bien,
une?
en fait, les masques représentent les quatre animaux. Tous ces personnages ont un animal. Donc, on a travaillé d'ailleurs beaucoup sur les animaux. Il en reste quelque chose dans les costumes, notamment. Donc, par exemple, le personnage d'Honoré, Sébastien Davy, le garçon, lui, il a un plastron qui est fait en cravate, parce que c'est un employé de bureau, un peu rigide quand il arrive. Hein. Et son plastron en cravate devient un plastron d'un oiseau. Donc il est devenu une espèce d'échassier comme ça. On a travaillé sur l'échassier. D'ailleurs, tout au début du spectacle, quand il va se positionner sur la malle, tout au début, voilà, et son pied part comme un échassier. Et tout le long du spectacle, on a travaillé les animaux. Carmen, notamment, son masque est inspiré du poisson. C'est un petit poisson qui va être mangé par l'échassier. D'où la scène, la bacchanale, ce qu'on appelle la bacchanale, où elle est tout petit poisson comme ça, et lui chante en disant
Oui,
je
on
vais te
voit.
manger, voilà des choses comme ça. Yvette, c'est le jaguar, c'est un jaguar, et Anne Meyer, c'est l'araignée, l'araignée, tout près du sol. Mais l'araignée n'est pas nécessairement négatif. Hein. Dans l'imaginaire d'ici, l'araignée n'est pas spécialement négative. C'est Anansi. L'araignée à Nancy, et elle est au ras du sol, elle regarde, elle est toujours dans des coins, elle observe, etc. Vous voyez, c'est un peu ça son personnage. Hein. Et voilà, donc ces masques sont, si on les regarde de très près, mais hier on est beaucoup trop loin pour les voir tout ça, ces masques sont directement issus du bestiaire animalier, c'est sûr.
D'accord.
Voilà, ils viennent de là, ces masques.
Ouais, ils étaient vraiment très très impressionnants. C'est intéressant
Voilà.
de vous entendre parler parce que ça permet quand même d'éclairer certains points, certaines choses. Et en fait, on se rend compte qu'il y a toujours un travail du détail qui est vraiment fait, par exemple sur cette pièce-là, où du début à la fin, en fait, il faudrait la revoir
C'est
pour
ça,
pouvoir se
oui.
rendre compte de
Voir tout
à
un
quel
travail.
point.
Il y a beaucoup de travail derrière, beaucoup
Voilà,
de
c'est
travail. On a
ça.
fait quelques résidences, on a fait quatre résidences, je crois. Donc, il y allait d'une semaine à un mois, pendant 2 ans à peu près. Hein. Donc, on a fait ça petit peu, par petits morceaux à cause du Covid. On a fait ça pendant la crise sanitaire. Et petit à petit, on a monté ça parce que Johanna habite à Marseille, elle n'habite pas ici, Johanna,
Ah oui,
elle
d'accord.
a une compagnie à Marseille. Et puis voilà, donc on venait, puis on travaillait, puis ça permettait de se nourrir avec ça. Puis voilà, ça s'est fait petit à petit comme ça, mais dans le sens du détail, parce que Johanna et moi, on n'aime que le détail. Voilà.
Oui, c'est normal. C'est vrai que moi je me demandais un peu c'était quoi le message qui voulait être. Enfin, si vous vouliez un peu expliciter, c'était quoi le message qui était porté par l'invitation au voyage. À un moment donné, je me suis un peu demandé, je me suis questionnée parce que c'est vrai que vu toute l'histoire de l'immigration forcée en Guyane, toute cette histoire qui est quand même vraiment lourde, compliquée et aussi très intéressante, cette invitation au voyage, elle peut un peu sonner faux. On peut se demander. C'est quoi ce voyage pour ces gens et qui en fait c'était des voyages difficiles plutôt pour les gens qui sont venus ici. Donc oui c'est vrai moi je me demandais mais en même temps vous faites appel un peu au mystique, appel à différentes cultures et donc c'est aussi ce qu'est la Guyane, c'est ce mélange de toutes ces cultures ensemble. Donc c'est vrai que je me demandais c'était quoi le message vraiment de cette invitation au voyage que vous vouliez faire passer. C'est une question un peu compliquée
Non,
mais.
pas compliqué, mais bon, c'est question de fond. Ça s'appelle question de fond. Non, en fait, à l'origine, Yvette, dans le cahier des charges du spectacle, voulait qu'on parle surtout de la Guyane, parce que elle a trouvé un jour, en se baignant dans la rivière Montcinéry, elle a trouvé qu'ici, tout n'est que luxe, calme et volupté. Et alors, voilà, c'est parti de là. Et en fait, on a greffé là-dessus le poème de Baudelaire, qui est une invitation au voyage, mais c'est un voyage qui est plutôt intérieur. C'est un voyage intérieur, en fait. Oui, bien sûr, il parle de partir là-bas, où toute la lumière de Hyacinthe est d'or, dans ces pays imaginaires. Mon enfant, ma sœur, songe à la douceur d'aller là-bas, vivre ensemble, aimer à loisir, aimer mourir. Vous voyez, ça, c'est la première phrase, les premières phrases de ce chef-d'œuvre. Et puis, en fait, c'est une quête initiatique, voilà, c'est ça. Donc, c'est une espèce de voyage intérieur, le spectacle, où ces personnages qui sont concrets viennent d'univers différents avec leurs problématiques, etc. Ils montent dans un véhicule qui est censé les amener quelque part et il se fait qu'il y a un accident et que un accident. Donc ils sont projetés dans une espèce d'ailleurs, comme ça, mm-hmm. où ils sont obligés de reconstruire quelque chose. Et à partir mm-hmm. du véhicule, qui est la malle, en fait, puisque mm-hmm. vous l'avez vu, ça, mm-hmm. je ne sais pas si vous avez compris, à partir des pièces de ce véhicule, mm-hmm. ils refont une structure, donc une espèce de carbet, de maison, comme ça, où ils peuvent s'abriter, voilà. Mm-hmm. Et ils apprennent à se connaître, parce que quand ils arrivent, évidemment, ils sont hostiles l'un à l'autre, hein, parce qu'ils ne se connaissent pas, donc ce sont ennemis, à la limite, voyez-vous. Oui. Comme toujours, hein, ça. Mais après, dès qu'ils commencent à connaître les uns et les autres, ça va mieux, on a des affinités qui se créent, des choses qui se passent, etc. Et puis, ça les amène petit à petit, cette création de quelque chose en commun va les amener à passer à une étape supérieure, qui est... nous partons, donc nous avons créé un autre véhicule à partir du premier véhicule, nous partons beaucoup plus loin à ce moment-là, puisque nous avons créé, là c'est un bateau, mais ça pourrait être n'importe quoi. Et là, ils vont vers un ailleurs, et à la fin du spectacle, ils reviennent. D'ailleurs, les positions sont exactement les mêmes qu'au début du spectacle. Hein. Mm-hmm. Donc ils sont soi-disant assis dans ce véhicule. Voilà, et ils sont repartis et on peut recommencer le spectacle à ce moment-là, d'accord. mais différemment, puisqu'ils ont changé. Voilà, ben ça c'est toute nos vies, non hein? Parce qu'on vit des expériences et puis on est fort de ces expériences pour passer à autre chose et puis à autre chose et puis voilà, c'est ça qu'on a voulu montrer simplement.
Et aussi comment ces expériences-là, elles nous transforment, elles nous changent finalement. Et avec elle, on réussit à évoluer.
Tout à fait, ça c'est clair. Ça.
Je crois qu'à la fin du spectacle, au début, ils ont peut-être mentionné le fait qu'ils aimeraient que le spectacle voyage peut-être un peu dans les Outre-mer. Et c'est vrai qu'on vous le souhaite, vous n'avez pas encore trop de visibilité sur qu'est-ce que ça va prendre ensuite.
Ah, je ne sais pas, moi je ne m'occupe pas du tout de la diffusion, c'est Yvette qui s'en occupe, je ne sais pas. Mais c'est le gros problème ici... Bon, il y a des choses qui se mettent en place, hein, vraiment, hein, maintenant. Mmh. Mais le gros problème a toujours été ici de diffuser, d'avoir une visibilité, même en métropole. Tout est question de réseau, voilà. Il y a des personnes ici, Valérie Gomain, par exemple, pour ne pas la citer, avec son théâtre de la Ruche, un grand réseau. Elle va très souvent jouer en Afrique, elle joue beaucoup dans les instituts français. Berekia Hirjo, maintenant, a attrapé aussi depuis peu un réseau, j'ai vu ça. Donc il y a des choses qui bougent, mais ce spectacle-là, oui, probablement, il va être voué à partir, parce que si on fait une création, c'est pour être diffusé, pour aller ailleurs, sinon ça ne sert à rien de le faire. Hein. Oui. Et puis ça coûte très cher tout ça, vous savez, de monter un spectacle professionnel, c'est très très cher. Donc non, il faut absolument le diffuser, mais je ne sais pas. Mm-hmm. L'idéal, ce serait de le diffuser au minimum aux Antilles, si c'est à côté. Mais c'est pas facile d'y aller, ça c'est sûr, il y a des ponts qui se créent, mais c'est pas encore ça. Il y avait notre possibilité, c'était le théâtre du Verbe incarné à Avignon, qui est une vitrine des Dom Tom. Ça, oui, bien sûr, parce que je jouais à Avignon, c'est très très cher. Hein, et puis il y a beaucoup de spectacles, il y a 1600, enfin il y avait, maintenant je ne sais pas ce qu'il va y avoir cette année, mais il y a eu avant le Covid de 1600 spectacles qui étaient proposés dans l'offre. Hein, ça fait une sacrée concurrence. Hein, bon. Alors là, ils ont mis en place ça, une quinzaine d'années peut-être. Peut-être 20 ans, je ne sais pas. Greg Germain et Marie-Pierre Bousquet ont mis ça en place. Donc, c'est des gens, des dames qui viennent du monde entier. Ouais. Et ça nous fait une espèce de vitrine. C'est certain, mais même, c'est cher d'y aller. Ouais. La DAC aide, bien sûr. La collectivité territoriale de Guyane, la région Guyane aide aussi. Mais ça reste très, 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 très cher de se déplacer à Avignon. L'avion, c'est très cher. Avion, se loger, les salaires, tout se manger.
Et en même temps, c'est quand même important parce que ça montre quand même une partie de la Guyane, ça montre beaucoup de choses sur ces territoires-là. Et c'est aussi une manière de faire du théâtre, moi en tout cas, parce que j'ai pas mal fait de scènes, enfin vu des scènes à Londres, et c'était une, enfin j'ai trouvé que c'était vraiment une manière de faire du théâtre qui était différente, en tout cas enfin, que j'ai trouvé là hier, que je trouvais ça très intéressante. Et donc bah, pour finir cette interview, je voulais savoir si vous, vous aviez d'autres projets là qui se profilaient, d'autres choses peut-être aussi
J'ai toujours des projets, là j'avais un projet, là j'avais fait une résidence avec un plasticien belge qui est c'est mondial. Donc on a fait 15 jours de résidence avec des acteurs d'ici, professionnels, et un acteur, un grand acteur belge d'origine italienne qui s'appelle Pietro Pizzuti. Mais je ne vais pas aboutir cette création-là. D'accord. Pour des raisons que je ne vais pas détailler ici. Je ne sais pas vraiment. J'ai un projet là qui se profile, mais je vais rien dire parce que c'est trop, c'est en gestation, toute fine. On est au tout début de la grossesse là.
D'accord. Bah, merci d'être venu, Patrick Moreau, merci pour ce super spectacle que vous avez contribué à mettre en scène. Donc voilà, c'était Maiori Campus, la radio du savoir, et puis on espère vous retrouver bientôt pour d'autres interviews.